Do it.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de Graphite 94.9. Ce matin, nous allons parler crowdfunding et musée à Compiègne. Pour m'accompagner dans cette émission, j'aurai une invitée, Anne Bonamy, directrice du musée de l'internement et de la déportation de Compiègne. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez nous. On va parler assez rapidement des nouveautés du musée, parce que je crois qu'il y a des nouveautés cette année et des nouveautés à venir également.
Oui, à moyen et long terme, effectivement. Donc le mémorial va avoir 10 ans en février prochain. Donc déjà, ça donnera lieu à un colloque qui durera presque 3 jours de rencontres, de tables rondes, projections, etc. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Effectivement, le parcours historique permanent du mémorial va être entièrement rénové d'ici 2020. On est en train de lancer ce projet-là, de monter un conseil scientifique avec des historiens très prestigieux au niveau national. Et donc, on a une envie de refaire l'ensemble du parcours permanent, c'est-à-dire les 10 salles qui sont montrées actuellement, et d'intégrer les collections, puisque le mémorial a la chance d'avoir eu en don énormément de trésors. Voilà, des objets qui ont été fabriqués dans le bois, des lits du camp, des tenues déportées, par exemple, aussi. Enfin, voilà, le public a ce besoin de retour aux objets. Et c'est vrai que le parcours actuel a été très bien conçu autour du numérique, de la dématérialisation. C'est-à-dire, voilà, on a beaucoup de
documents sonores.
Voilà, de projections, de vidéos. Mais effectivement, il n'y a pas d'originaux. Alors, on permet quand même aux gens d'être moins frustrés à travers les expositions temporaires, puisque dans nos expos et dans les vitrines, on montre des choses. Mais c'est que temporaire. Là, l'idée, c'est de le mettre de manière permanente dans des vitrines, dans les salles.
On rappelle un peu votre parcours. Vous avez fait des études, il me semble, d'abord de tourisme,
ouais.
Ensuite de valorisation du patrimoine.
Tout à fait, bravo.
Et vous êtes arrivée, du coup, à Compiègne en tant qu'adjointe.
Oui.
Et vous êtes devenue directrice en 2001.
2011.
En 2011, ouais.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais,
donc c'est quoi, du coup, le parcours depuis ce temps-là
Bah, le parcours, c'est toutes les problématiques liées aux établissements culturels. Hein. C'est gérer des budgets, chercher des financements aussi quand justement on n'est pas satisfait par certaines situations. C'est du personnel aussi et du management. C'est organiser des événements, des expos, gérer la com. Voilà, c'est tout ça. C'est un métier passionnant.
C'est combien de personnes aujourd'hui l'équipe du musée?
Aujourd'hui, on est 6. Plus un collègue à l'entretien, donc 7 au total. Donc deux personnes à l'accueil, moi, mon assistante, mon responsable technique, et donc une personne pour l'entretien des bâtiments.
Un parcours assez atypique, venir du tourisme, finir dans la culture et notamment dans le patrimoine, ça matche bien entre ces deux techniques-là. Ça permet de pouvoir réfléchir des choses un peu moins, on va dire, administratives et culturelles, d'avoir le côté tourisme.
Oui, en fait, le BTS que moi j'ai passé, c'est pas le BTS tourisme d'aujourd'hui. C'était un BTS divisé en deux. Aujourd'hui, on accueille les touristes et on les envoie à l'étranger dans la même formation aujourd'hui. Moi, j'ai accueilli les touristes, en fait. C'est un BTS qui s'appelle AGTL, Animation et Gestion Touristique Locale. Donc, on était plus sur, effectivement, les offices de tourisme, les musées, etc., et la programmation culturelle des événements. Et la gestion de groupe aussi, la médiation culturelle. Donc, en fait, c'est ma formation. J'ai eu des stages qui m'ont permis aussi, en musée, en office de tourisme, de compléter ça. Et la licence pro de d'Amiens est très bien faite aussi pour le côté patrimonial, a été très important.
Les visiteurs aujourd'hui du musée, c'est quel type de visiteurs? C'est des touristes, c'est des Compiénois, c'est des habitants de l'Oise, de la Picardie, des Hauts-de-France maintenant?
Alors aujourd'hui, on a une proportion quand même assez importante de Picard et d'habitants de l'Oise. Hein. On est à peu près sur 60% d'Oisiens, Isariens, je ne sais plus exactement comment on doit dire, mais c'est quand même une majorité, à peu près les deux tiers. Et effectivement, une proportion grandissante de public scolaire. C'est-à-dire que là où on était autour de 3 000, 3 500 au départ, aujourd'hui on a 4 500 jeunes par an. Donc on est très, très content de ça. En revanche, la fréquentation globale a tendance à stagner autour de 10 000 par an. Ce qui est bien, parce que bon, Compiègne, ça n'est que 45-50 000 habitants, 80 000 avec l'agglo, ce qui n'est pas démesuré. Mais ça pourrait être nettement mieux, et c'est aussi l'objet de la refonte du parcours historique.
En plus, le musée est quand même assez excentré du centre-ville, donc c'est pas forcément pour les touristes qui se baladent, on tombe pas dessus par hasard, quoi.
Oui, je pense que clairement, il faut tomber dessus. Alors, il y a l'Office de tourisme, évidemment, hein, qui fait un super travail de diffusion de l'information. Il y a évidemment Internet et Facebook et tout ce réseau-là derrière. Il y a les dépliants papier qui sont diffusés aussi chez les collègues. Musée Office de tourisme de Compiègne et de la région. Bon voilà, c'est on passe un temps important à essayer de communiquer autour de ce mémorial.
C'est quoi les langues parlées qui sont... Est-ce qu'on a des Chinois, des Japonais qui viennent ou est-ce que c'est plus des Européens?
Alors évidemment, oui, il y a une proportion importante d'Européens, mais dans les étrangers qui représentent en gros hein, 5-6% de notre fréquentation, là pour le coup ça vient du monde entier. J'avais encore un couple de Chinois hier à l'accueil, j'étais surprise, mais c'était des Chinois. Voilà, on a des Australiens, des Néo-Zélandais, des Argentins, ça vient vraiment du monde entier. Puisque en fait au camp de Compiègne, il y avait 30 nationalités différentes hein, au sein des internés.
Et vous avez découvert des nouvelles choses, des nouvelles histoires, parce que j'imagine que alors, les objets arrivent aussi chaque année. Là justement, on en parlera au cours de l'émission, parce qu'il y aura un crowdfunding pour pouvoir acquérir des nouveaux objets. Est-ce que du coup, il y a des nouvelles histoires qui apparaissent un peu chaque semaine? Est-ce qu'on vous dit « Ah ben moi, mon grand-père était dans ce camp-là, il m'a raconté ça ».
Oui, mais tout à fait, ça, c'est tout à fait étonnant. Si vous voulez, là, on est en plus dans une phase très importante de la disparition des témoins, qui était déjà enclenchée il y a 10 ans au moment de l'émergence du mémorial, mais qui est aujourd'hui vraiment très visible. On a des dizaines d'anciens déportés qui meurent tous les mois, et il en reste de moins en moins. Donc, face à cela, vous avez nécessairement des familles qui se retrouvent avec une tenue déportée, des documents, des objets, et qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, heureusement pour nous, bien souvent, ils pensent au mémorial et ils viennent donner ça. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, en fait, on est en augmentation des dons. Parce qu'il y a la disparition des gens, des personnes.
Les dernières histoires qu'on vous a rapportées, c'était quoi ?
Oula, là, il me faudra un peu de temps pour réfléchir, mais c'est souvent des choses très émouvantes, quoi, où on a... des familles qui nous parlent de leur papa, qui était dans tel baraquement, dans tel camp, qui a vécu au camp pendant 2-3 mois. Des anecdotes parfois vraiment très poignantes, comme quoi voilà, la personne n'est jamais rentrée. Et donc la seule trace qu'on a de lui, c'est ce nom sur le mur des noms à l'entrée du mémorial. Et parfois, sur le mur des noms, voilà, on a un petit bouquet de fleurs, on a une petite bougie... Et pour les collègues à l'accueil, elles font pas que de l'accueil, quoi. Elles sont aussi dans l'accompagnement, l'écoute, dans l'accompagnement, et elles reçoivent beaucoup d'émotions, parfois de peine. Elles sont formidables. Hein. J'ai vraiment une équipe super. J'ai une anecdote sympa. Ça y est, ça me revient. Le lundi dernier, on a reçu la visite de Serge Brion, 95 ans. Avec sa fille et son gendre et un couple d'amis sont venus à 5. Et Serge Brion a été interné au camp et s'est évadé en juin 44 par tunnel. Et donc tout son parcours est raconté dans la partie tunnel d'évasion du mémorial. Donc il avait envie d'aller voir ça avec sa fille qui n'était jamais venue.
C'est le tunnel qui a été redécouvert du coup ? C'est celui-ci ?
C'est quasiment ça. Ouais. C'est celui qui est 30 mètres au-dessus en fait. Donc, mais le témoignage de Serge Brion, il est dans cette installation-là. D'accord. Et donc il y a 20 minutes de son témoignage dans les audioguides et dans une télévision. Et il était trop heureux de pouvoir montrer ça à sa fille. Et c'était bouleversant de le revoir. Et une mémoire, mais à 95 ans, quelqu'un vraiment, un professeur d'université, très reconnu aussi dans la médecine, et qui disait à sa fille, ah bah tu vois là, le bâtiment A3 et A4, la cuisine, elle était là. Il se rappelait de tout.
C'est une période qui marque aussi.
Ouais, redoutable. Mais vraiment, quelqu'un avec des yeux bleus magnifiques et un sourire. Enfin voilà, on s'est pris dans les bras parce que ça fait 10 ans que je travaille au mémorial et que Serge le connaît bien et on était heureux de se voir aussi.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé un peu de l'historique. Vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire de ce camp, comment il a commencé, quelles sont les personnes qui y ont été, quand il s'est terminé, puisqu'ensuite il a été réhabilité en baraquement militaire. On revient un petit peu sur l'histoire de ce camp ?
Bien sûr, oui. Alors, je vais essayer d'être synthétique, parce qu'autrement, on en a pour deux heures. Hein, mais en gros, c'était des bâtiments militaires depuis 1913, hein, construits par l'armée.
En dehors de Compiègne.
Oui, qui est, c'est vrai, à peu près à 1,5 km du centre-ville, 2 km du centre-ville. Donc, entouré de champs, on était vraiment en pleine campagne à l'époque. Et avec une surface immense, c'est-à-dire qu'on est sur 20 hectares de terrain, 3 km de périmètre, 24 baraquements qui font 65 mètres par 10. Donc on était sur quelque chose de très très grand. Un an plus tard éclate la première guerre, donc ça devient un hôpital militaire à l'arrière du front. Entre deux guerres, ça redevient une caserne. Deuxième guerre mondiale, à nouveau hôpital d'évacuation. Et à partir de 40, invasion des Allemands, donc évidemment l'armée allemande va réquisitionner les bâtiments pour en faire un camp. Au départ, un camp de prisonniers de guerre, donc des soldats français et anglais. En juin 41, ça marque un tournant très important, c'est-à-dire que c'est là que ça devient un camp d'internement et de transit pour des opposants politiques. Au départ, exclusivement communistes, et ensuite de toutes les mouvances de la résistance, c'est-à-dire en 43-44, on a vraiment des résistants de tous bords qui sont ensuite déportés en masse dans les camps nazis. Et donc, on est sur... En gros, si on devait se rappeler d'une chose concernant Royal Lieu, c'est le camp de déportation des résistants de France. Voilà. C'est 50 000 personnes internées, la quasi-totalité déportée, la moitié ne revient pas des camps. Et c'est un Drancy des résistants, si on voulait résumer quelque part. Drancy pour les juifs, Compiègne pour les résistants. On est vraiment sur les mêmes échelles de population.
Là, vous l'avez dit, toutes les nationalités représentées. Alors, ils étaient ensemble. Le but, c'était aussi de pouvoir casser un peu la solidarité, de pouvoir casser avec les différentes langues. Il y avait vraiment une réflexion là-dessus sur les populations des prisonniers, savoir comment on les plaçait, si on les mettait dans quel baraquement.
Oui, alors effectivement, en fait, à Compiègne, il n'y a pas un camp, mais trois camps. Vous avez le camp A, le camp B et le camp C, chacun composé de 8 baraquements. Les résistants opposants politiques, hommes, sont placés au camp A. Donc, c'est là où se trouve le mémorial actuellement, hein, pour info. Donc c'est 40 000 personnes. Hein,
donc c'est les triangles rouges ?
C'est les fameux triangles rouges qu'on retrouve dans les camps nazis après, tout à fait. De l'autre côté de la place d'appel, qui correspond à la clinique Saint-Côme actuelle, c'était le camp américain. Donc où on va retrouver 500 ressortissants nord et sud-américains, 18 nationalités. Donc états-uniens, mais aussi nicaraguayens, paraguayens, argentins, chiliens et j'en passe. Qui ne sont pas déportés, qui sont là comme monnaie d'échange et qui sont in fine libérés en 44. Au camp C, donc au fond, qui correspond à l'actuel quartier de Royal Lieu dans lequel il y a voilà, ces nouvelles maisons qui ont été construites, c'était le camp juif, c'est-à-dire le pire des trois en termes de conditions de détention, où là les personnes sont mises sur des bottes de paille, il n'y a pas de lit, il y a pendant les premiers mois d'hiver pas de chauffage, donc des drames qui se produisent aussi, où la Croix-Rouge a du mal à avoir accès au camp, bref, des conditions de détention extrêmement pénibles au camp C. Au camp B américain, plutôt bonnes conditions par rapport aux deux autres, et au camp A, on est dans une situation intermédiaire où la Croix-Rouge a quand même accès au camp, où il y a un échange de courrier possible avec la famille, et où il y a une certaine solidarité qui se crée, dans les trois camps d'ailleurs, la solidarité, hein, mais très fortement au camp A, et où les gens qui reçoivent des colis échangent avec les autres. Il y a des conférences, des concerts qui s'organisent, des kermesses. Il y a une vraie vie artistique, intellectuelle au sein du camp qui leur permet de passer le temps, parce que ce n'est pas un camp de travail forcé, c'est pas un camp de concentration, c'est un camp de transit. Donc ils s'ennuient à longueur de journée, et heureusement qu'il y a cette vie par ailleurs.
Les Compiègnois, c'était comment la vie avec les Compiègnois? Parce qu'il fallait qu'ils viennent quand même de la gare de Compiègne en centre-ville jusqu'au camp à pied. C'était quoi le rapport avec les habitants? Il y avait des rapports qui s'effectuaient?
Alors ça dure 3 ans cette histoire. Et évidemment en 3 ans les choses changent. Vous avez les premiers convois qui partent de Compiègne. Les Allemands profitent d'une espèce de... Les Compiègnois ne savent pas.
Donc, on se pose la question quoi.
Voilà. On se pose beaucoup de questions. Les gens associent ces départs-là parfois à des départs de criminels, parce que pour eux, des gens qui sont envoyés comme ça, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et il y a parfois des réactions de la population, effectivement, qui n'est pas la bonne. Et très rapidement, en fait, la population se rend compte qu'en effet, ce sont des innocents qui s'en vont. Et là, il y a aussi une grande solidarité qui se crée, des déportés qui laissent tomber des petits mots qui laisse voilà, par terre, et la population de Compiègne qui va ramasser ces mots et les envoyer aux familles. Ça, ça s'est vu des dizaines de fois. Des gens qui assistent à des départs déchirants d'épouses qui sont sur le bord de la rue, qui voient passer leur mari, qui essayent de s'avancer, qui sont rabroués très violemment par les gardiens. Ça, il y a énormément de Compiénois qui m'ont parlé de ça. C'est des scènes déchirantes. Donc, bien sûr, là, et je ne parle pas des résistants de Compiègne, qui n'ont pas été très nombreux, mais qui ont énormément agi pour débloquer la situation et à leur petit niveau essayer de passer des courriers clandestins entre l'intérieur et l'extérieur du camp, faire évader des gars aussi. Enfin voilà.
Là, les petits papiers, vous en avez récupéré du coup dans le fond du patrimoine ?
Oui, oui, on a des petits mots clandestins qui ont été jetés soit sur le parcours dans Compiègne, soit sur les voies de chemin de fer pendant le transport dans les wagons à bestiaux. Où là, effectivement, à proximité d'une gare ou d'une limite de garde barrière, les déportés ont jeté beaucoup, beaucoup de mots, et avec la complicité des cheminots qui ont été envoyés. Oui.
Ensuite, la fin de la guerre, le camp devient quoi ?
À la fin de la guerre, en fait, pendant 2 ans, on va y retrouver des prisonniers allemands. Bah oui, juste retour des choses quelque part. Et dès 1947, l'armée française reprend ses quartiers. Et jusqu'en 1997. Et les choses reprennent leur cours quasiment. Voilà.
Les militaires qui étaient là, du coup, après la guerre et jusqu'en 1997, est-ce qu'ils avaient conscience dans l'endroit dans lequel ils faisaient leur classe, ou c'était quoi exactement ? C'était quel genre de baraquement militaire pour la suite ? Une formation, ou ils faisaient quoi dedans ?
Il y avait plusieurs régiments d'infanterie, donc c'était souvent les bidasses en fait, les jeunes du service militaire hein, qui venaient faire leur service militaire. On a une anecdote assez dingue qui est que Michel Drucker, à 18 ans, débarque à Royallieu comme jeune appelé pour faire son service, et puis se fait regarder par l'officier qui l'enregistre à l'entrée et qui lui dit « Tiens, Drucker, votre père n'était pas médecin pendant la guerre ?» Et là, Michel Drucker, ne connaissant absolument pas l'histoire de son père, dit « si. Bah, il était médecin du camp juif, ici. » Et c'est comme ça qu'il découvre l'histoire de son père, qu'il n'en a jamais parlé. Donc,
ah oui, c'est... du coup, il y a des rapports. Il est venu à Compiègne, du coup, Michel Drucker
Il était là, à l'inauguration. Il était là, oui, tout à fait. Il était très ému. Et c'était pas fin. Hein. C'était très sincère comme émotion. Et il est revenu quelques mois plus tard, lorsqu'on a fait avec une Madame Charpentier, je me rappelle, qui était directrice de l'école Saint-Germain, qui a monté un spectacle avec sa classe de CM2 sur le camp. Spectacle de presque une heure, hein, avec les décors et tout, quelqu'un qui s'était énormément investi. Elle avait invité Michel Drucker.
Il était venu.
Parce qu'il ne tente rien à rien. Et il est venu, oui, oui.
On va faire une courte pause musicale. On parlera après d'un crowdfunding, d'un appel aux dons, puisque vous voulez acquérir des dessins qui seront mis en vente chez Druot. On en reparle juste après. Un titre de Nathalie Doco, ça s'appelle Alque Madruga. Elle est justement argentine et on se retrouve juste après ça.
Thank you. rossignol de nuit commencent à chanter. Les fleurs du printemps tombent mollement, il n'y a plus qu'à les ramasser. Ce sont de belles fleurs, mais elles n'ont pas d'épines. Le silence autour de moi a quelque chose d'anormal et inquiétant. Se presse et masque la lune. Perché à la cime d'un sabre centenaire, bouboule le hibou. Je suis un paria, le sentier solitaire. Je suis un paria, le sentier solitaire.
Un extrait de l'album d'Aquaserge, juste avant, c'était Natalia Doko sur les ondes de Graphite 94.9. De retour sur les ondes pour vous parler donc d'un appel au don, un crowdfunding pour acheter des dessins, des œuvres. Alors, on va parler de cet artiste. Comment ça se prononce son nom, c'est
Gotko.
Gotko.
G-O-T-K-O. Ouais. Jacques Gotko, qui était d'origine ukrainienne et qui fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris et qui fait partie des artistes de l'École de Paris. Donc c'est un artiste en plus très coté et il se trouve qu'il est russe, donc ukrainien, mais en tout cas de ce côté-là, et juif, et donc il va être interné à Compiègne en 41-42. Et il va faire effectivement un certain nombre d'œuvres d'art de son environnement. Donc, qui, voilà, tous les dessins qu'on peut avoir, nous, actuellement, représentent le camp de Compiègne. On en a 3 exactement. Mais on a des noirs et blancs, c'est-à-dire c'est des encres, c'est des estampes qu'on a. On n'a pas du tout d'aquarelle. Et quand il y a 3 semaines, je suis tombée, enfin j'ai eu une info concernant cette vente à Drou le 4 décembre, j'ai vu les dessins, je suis tombée de ma chaise. C'est juste, ils sont magnifiques, ils sont des couleurs sublimes. On est à l'automne, donc en plus, voilà, il y a des orangés, des ocres, des jaunes. J'avais jamais vu de Gotko coloré en plus, donc c'était vraiment extraordinaire. Et dans la perspective d'une refonte du parcours historique, je me suis dit, mais ces dessins, il nous les faut absolument, quoi.
Là, c'est des œuvres qu'il a dessinées dans le camp, ou c'est des œuvres... Oui. Ouais, c'est pas des œuvres qu'il a fait après, quoi.
Non, il les a fait dans le camp, en 41-42. Il est interné à Royallieu et il dessine son environnement. Oui, oui, c'est ça. Donc,
comment c'est venu, comment c'est cette découverte chez Druot pour cette vente? Vous suivez tout ce qui se passe sur...
Alors, oui, moi j'ai une alerte sur Google. Voilà. Mais bon, là, en l'occurrence, j'ai été contactée par un expert de Paris qui m'a averti de la vente. Effectivement, quand je vois la mise à prix, je me dis bon, bah, ça va être compliqué, quoi, parce que déjà, on n'a pas de budget d'acquisition mémorial. Ça a toujours été de l'investissement qu'on demande de manière exceptionnelle à la mairie. Là, en l'occurrence, chaque dessin, donc il y en a 5, chaque dessin est mis à prix entre 2 et 3 000 euros.
Ouais, c'est
donc,
prix de départ en plus.
Prix de départ. Et vu qu'il est très coté et que c'est une vente où il n'y a pas que ces dessins, il y en a d'autres, mais visiblement des gens qui viennent du monde entier pour la vente, je suis un petit peu, voilà, un peu inquiète aussi. Et ce que j'ai appris il y a 2 jours, c'est que le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem est intéressé par les Gotko aussi. Donc on n'est pas tout seul sur l'affaire. Donc je pense que là, la mobilisation... Des fans d'histoire, des amoureux de cette histoire du camp de Royallieu, des familles de déportés, des associations, des Compiénois, parce que c'est un patrimoine compiénois avant tout. Ben, il faut qu'ils reviennent à Compiègne, ça ne peut pas être autrement. Même si, par ailleurs, je trouverais ça un moindre mal que ce soit Yad Vashem, parce que ce serait aussi une bonne solution. C'est une institution et on peut se prêter les œuvres aussi. Donc ce serait moins pire que si ça partait dans une collection privée.
Bien sûr.
Néanmoins, ils ont été faits à Compiègne, ils représentent Compiègne, enfin je parle du camp de Royallieu en disant Compiègne, mais il faut qu'ils reviennent au mémorial, c'est une certitude. Donc, voilà.
Ça serait une nouveauté pour vous d'aller acheter sur une vente aux enchères?
C'est
la première fois, non?
J'ai déjà acheté justement un Jacques Gotko il y a 6 ans, en 2011, qui était, semble-t-il, le dessin préparatoire d'un des dessins qui est en vente, qui était simplement esquissé au stylo noir ou voilà, à l'encre. Et quand j'ai vu ce dessin aquarellé, je me suis dit, c'est probablement le dessin préparatoire que j'ai moi déjà, qu'à l'époque j'avais payé 400 euros. Hein, c'était raisonnable il y a 6 ans, mais je pense que sa cote a augmenté.
Là, pour acquérir du coup ces œuvres, il y a donc un appel aux dons sur le site Ulule. Donc là, un objectif de 10 000 euros. Il y a déjà 920 euros à l'heure où on enregistre cette émission, avec je ne sais pas combien de participants, ce n'est pas indiqué.
Si, tout en haut, on a 18, je crois.
18 ?
Ouais.
Et du coup, la question, c'est... Ah oui, du coup, c'est Association Transmission, c'est l'association des amis du musée, c'est ça ?
Exactement, oui. Qu'on a créé en 2013 avec un fils d'interné, Philippe Schwartz, hein, qui est devenu président de l'association et qui est destiné à favoriser le développement du mémorial, son rayonnement. Cette association est pour moi un soutien indéfectible et m'accompagne quotidiennement, en particulier dans la recherche de financement. Donc, pour des questions de souplesse
administrative,
financière, c'était plus simple que ce soit Transmission qui perçoive les fonds collectés plutôt que la ville de Compiègne. Enfin, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on a indiqué Transmission. Ouais.
J'imagine que du coup, c'est déductible des impôts en plus, là, si on fait un don à cette association.
Oui, tout à fait. Derrière, nous, on fera des formulaires CERFA de déduction fiscale, absolument.
Là, le but, c'est de récupérer plus de 10 000 euros ou... parce que là, alors, les mises à prix, c'est 2 000, 3 000 euros. Ça va peut-être partir plus haut. C'est quoi le but extrême? Si on imagine que ça marche très bien, c'est d'exploser la cagnotte. La cagnotte sera gardée pour être utilisée plus tard ou comment ça va se passer? Vous n'avez pas encore réfléchi à ça?
Je me suis mis une limite à... je pense qu'il ne faut pas que je dépasse les 5000 euros quoi, par dessin.
Par dessin.
Que si ça va au-delà, là, il faudra que je me désengage de la vente. Parce qu'il faut. Voilà, on reste sur un établissement municipal, ça serait démentiel de mettre davantage. C'est déjà une très grosse somme, 5000 euros. Donc si j'arrive à en acheter deux, ce serait déjà formidable. Et auquel cas, Yad Vashem achètera les trois autres et puis on pourra se prêter les dessins. Voilà.
Là, ensuite, une fois que vous les avez achetés, le but, c'est quand même de les mettre sous cadre, de les protéger. J'imagine que vous avez aussi calculé ce genre de coût. C'est un coût élevé, ce genre de préservation du patrimoine ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que bon, c'est du matériel spécialisé dans la conservation préventive, mais c'est du matériel qu'on possède déjà pour nos collections actuelles. Donc, ça ne demande pas un investissement énorme. Non, en revanche, ce qui va nous demander un peu de temps, mais c'est pour la bonne cause, c'est d'organiser un événement de présentation des dessins dans des vitrines avec tous les donateurs qui souhaiteraient venir. Et en plus, ça fera un peu de buzz autour du mémorial, ce qui n'est pas plus mal. Et voilà. Et je pense qu'à terme, dans le nouveau parcours, donc 2020, ce dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est des dessins qui seront dans les salles. Ça, c'est soit à titre d'originaux, soit à titre de reproduction en grand format, comme ça peut être le cas actuellement.
Vous pouvez nous les décrire un petit peu, ces dessins ?
Alors, donc, on a, pour moi, celui dont je vous parlais, qui me semble être vraiment très beau, vous avez une perspective avec les 8 baraquements qui sont donc alignés les uns à côté des autres sur la droite. Sur la gauche, on a le lavoir du camp et donc et des personnes, hein, des hommes qui sont en train de marcher sur l'allée centrale entre ces deux ensembles de bâtiments. Donc, comme je vous le disais, on a le grain de Gotko est là. On a cette petite touche de peinture qui révèle un espèce de néo-impressionnisme vraiment très très esthétique. Et on a des couleurs ocre, orange, jaune, marron, quelques bleu vert aussi pour les arbres. Ils ont été réalisés en septembre 41, ces dessins. Donc on est à l'automne. Et même le ciel est automnal et le sol. Et les hommes portent des chapeaux, des bérets. Et on voit qu'ils se promènent sur cette grande allée centrale qui longe cet ensemble, cette allée de bâtiments. Sans but précis, bien entendu, puisque voilà,
ils
attendent. Et c'est justement cette attente qui est, je trouve, très bien matérialisée.
Les œuvres suivantes ?
Celle-ci, on voit au premier plan un gardien de la Wehrmacht. Donc, la Wehrmacht était effectivement l'administration en fait du camp.
Les gardiens n'étaient pas des gardiens, c'était pas des prisonniers. Du coup, c'était
des soldats de la Wehrmacht.
D'accord. Okay.
Oui. C'était le seul camp en France, sur la centaine de camps d'internement que comptait la France pendant la guerre, le seul camp administré, géré par la Wehrmacht et le SD, c'est-à-dire la Gestapo, c'est Compiègne.
Parce qu'en général, c'était géré par les prisonniers eux-mêmes en plus.
Par Vichy. Par Vichy. Quasiment tous les camps d'internement français sont gérés par Pétain en fait. Donc là, on a effectivement ce gardien, juste derrière lui, une porte ouverte. Donc on peut imaginer que Gotko rêve de liberté, donc c'est aussi cette métaphore de la liberté. Derrière, on a l'enceinte de Barbelé. Et juste là, vraiment devant, le Mirador, avec des arbres derrière. Donc vraiment, là, le Mirador est vraiment au centre du dessin. Et le garde juste à droite. Toujours avec les mêmes tons. Mais là, on a plus de vert parce qu'on a les arbres, on a les buissons et ce garde allemand. Ensuite, le troisième dessin, on est tout au fond du camp, entre le camp B et le camp C. Et on a donc à droite des bottes de paille, parce qu'on est là encore à l'automne, donc c'est le moment de la moisson. Il y a des grosses bottes de paille au fond, derrière le Mirador, parce que c'est la ferme Boursier à cet endroit-là. Donc c'est très logique, en fait. On aperçoit d'ailleurs la ferme Boursier qui était rue Saint-Germain. On a cette enceinte de Barbelé qui traverse le dessin de droite à gauche. Le Mirador qui est là en plein milieu aussi, avec un garde à l'intérieur, assis et armé. Sur la gauche, on a des petites croix blanches qu'on retrouve sur beaucoup de dessins de Gotko, hein, dans les salles du parcours actuel, qui était en fait un cimetière qui datait de 14-18, probablement un cimetière lié à l'histoire de l'hôpital militaire. Voilà, donc on est plus sur un paysage que véritablement le camp, mais avec ce mirador en plein milieu, il n'y a pas de doute. Hein.
On les retrouve, les traces des miradors, vous avez fait des recherches, on retrouve les emplacements
Oui, bien sûr, on a ça, on a les plans du camp, les plans nazis, les plans français, donc ça, on sait exactement où ils étaient, en effet, il y en avait 7 hein, tout autour du camp. Celui-ci, qui, à mon sens, est le deuxième le plus intéressant, Parce qu'on voit des hommes, on voit des internés, hein, il y en a 8 qui sont en train de parler. Donc là encore, ça illustre la vie au camp. Et surtout, c'est une vue qu'on n'a pas dans les dessins actuellement. C'est-à-dire
vous avez réussi à replacer les vues
tout à fait. On sait exactement où on est là et où on regarde. On est là encore à la limite du camp B et du camp C, tout au fond. Le bâtiment que vous apercevez ici, qui est une espèce de maison avec un toit en demi-hexagone, là, c'est la maison des sous-officiers de la caserne. Il y en avait 4 comme ça. Donc là, on en aperçoit une sur la gauche, hein, au fond. Toujours le Mirador, mais là, plus au fond, on aperçoit très bien les maisons qui bordaient cet endroit-là du camp, et en particulier le café qui se trouvait de l'autre côté. Café qui, lui aussi, a fait de la résistance, hein, très clairement, et qui a fait évader des internés, qui passaient des courriers clandestins. Donc on a effectivement cet environnement immédiat du camp qu'on aperçoit, mais de manière beaucoup plus nette que sur les dessins qu'on peut avoir actuellement. Donc si je devais en acheter un deuxième en dehors de l'enfilade de bâtiments de tout à l'heure, ce serait celui-là.
Ce serait celui-ci,
ouais. Ouais. Et le dernier, là on est vraiment au fond, vraiment derrière le cancé, et on regarde vers l'actuelle usine Robe. Et on voit bien à quel point c'est la cambrousse, hein. C'est-à-dire, il n'y a rien.
C'est-à-dire, c'est des champs, c'est vraiment un paysage.
Il y a une brouette, il y a la rangée de barbelés, et puis derrière, il y a des mottes de paille, et puis rien. Il y a des collines, quoi. On aperçoit vaguement des collines. Donc ça aussi, c'est intéressant, parce que ça montre bien à quel point on est dans la campagne compiénoise.
Comment sont arrivés jusqu'à vous, comment sont arrivés jusqu'à nous plutôt ces dessins de Godko, puisqu'il est décédé à Auschwitz en plus, je crois, il est décédé en déportation.
Il est mort à Auschwitz, ouais. Oui, avec toute sa famille en effet. En fait, Jacques Godko va, pendant son internement, donc réaliser ses estampes et ses dessins, et va en offrir un certain nombre à ses camarades d'internement, à des personnalités qu'il apprécie, par exemple Germaine Pourvoya, qui était l'infirmière du camp pendant 2 ans, et Madame Pourvoyeur en fait va léguer par l'intermédiaire de son neveu en 2006 l'intégralité de ses documents et de ses archives au mémorial. Donc les 3 estampes que j'ai actuellement, ça vient du fonds Pourvoyeur. Et effectivement, ceux-là, comment ont-ils été sauvegardés et pourquoi ressortent-ils aujourd'hui? Ça, c'est un mystère. Je pense que j'en saurai plus dans quelques temps. Mais en tout cas, ils ont probablement été donnés par Godko à une personne extérieure qui les a conservés jusqu'à aujourd'hui.
Du coup, il peut encore en sortir, c'est possible qu'il y en ait encore dans la nature, quoi.
Ah oui, ouais. La preuve, hein, c'est qu'on est en 2017 et ça sort d'on ne sait où. Donc oui, je pense que des trésors comme ça, il y en a encore beaucoup qui attendent d'être découverts, oui.
Pour participer à cette acquisition, c'est très simple, hein, vous allez sur le site de ulule.com, vous cherchez Godko-Compiègne, sinon sur le site du mémorial, c'est indiqué.
Sur la page Facebook et sur le site, ça le sera très bientôt. Oui.
Nous, on repartagera ça également sur la page Facebook de Graphite. Pour l'instant, on vous l'a dit, 940 euros sur les 10 000 euros collectés. Donc, on est à 9% de la collecte. Ensuite, ces dessins, s'ils sont acquis, ils arriveront dans combien de temps à Compiègne? Le but, c'est juste après la vente, vous pouvez les récupérer ou ça met un peu de temps?
Oui, je ferai le déplacement à Paris auprès de l'expert en question et qui me récupérera les dessins et j'irai les chercher moi-même. Oui, tout à fait.
Elles appartiendront à qui du coup? À l'association des musées ou alors elles appartiendront directement au musée?
Alors,
ça se passe comment pour les acquisitions comme ça?
Là, en l'occurrence, la ville de Compiègne n'a pas encore donné son dernier mot. C'est-à-dire que je n'ai pas encore de retour de Philippe Marigny.
Qui peut apporter aussi de l'argent pour l'achat.
Absolument. Donc, je pense que ce sera à définir. Mais je ne suis pas inquiète, puisque Transmission a été créée pour soutenir le mémorial, et le mémorial est municipal. Donc, on trouvera un arrangement. Enfin, voilà, c'est pas... Ça, pour le coup, c'est de l'ordre du... ça voudra dire qu'on sera arrivé à un résultat, ce qui est déjà très encourageant.
Des entreprises peuvent vous aider également. Le mécénat est un peu à la mode. On essaie d'aider de plus en plus ces entreprises à donner de l'argent aux associations et aux musées, par exemple. Mm-hmm. Ils peuvent vous contacter?
Bien entendu, parce que là, les Godko, c'est une chose. Mais plus largement, pour la rénovation du parcours historique permanent, on est en recherche de financement, bien entendu, et on a besoin d'aide. Pour vous donner un exemple, nous avons un mécène prestigieux qui nous a rejoint, qui a signé avec nous une convention pluriannuelle sur 2017-2020, qui est la SNCF. La SNCF s'est engagée à nous suivre par exemple, la rénovation du mur des noms du mémorial, puisque nous allons rajouter des milliers de noms d'ici la fin de l'année 2018. Et voilà, on a au total, sur ces 3 ans, 40 000 euros de subventions de la SNCF, et j'espère que d'autres suivront.
Les rajouts de noms, ils ont été redécouverts comment, ces noms?
Alors, C'est un travail de fourmi qu'on a effectué depuis 10 ans maintenant, qui a été à travers nos recherches. Je vais prendre l'exemple des Américains. Il y a encore 4 ans, j'aurais été bien incapable de vous donner les noms des 500 Américains. Sauf que derrière, une jeune femme, une jeune historienne, compiénoise d'ailleurs, Tiffaine Dupuy-de-Méry, a fait son mémoire sur les Américains de Compiègne et a découvert un trésor en Suisse, puisque c'était la Suisse qui gérait les intérêts des ressortissants américains en France et anglais. Et donc, elle a retrouvé les noms de ces 500 personnes. Donc, on est capable de les rajouter aujourd'hui sur le mur, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a aussi, et ça c'est une découverte tout à fait extraordinaire, il y a au service historique de la Défense, donc les archives du ministère de la Défense à Caen, les registres du camp de Royallieu reconstitués, c'est-à-dire ce ne sont pas les originaux, mais ils ont été recopiés dans les années 50 par les services historiques de la Défense. Et donc ces registres reconstitués ont été largement exploités pour lister les déportés qui sont sur le mur des noms actuellement, mais les autres, les non-déportés, les libérés, les fusillés, les morts au camp, les évadés, ils ne sont pas sur le mur des noms. Donc on a un énorme travail à faire sur ces registres. Et j'ai bon espoir que on parvienne avec l'aide de chercheurs, avec la subvention de la SNCF, ça va être énormément facilitant, bien entendu, qu'on parvienne à rajouter plusieurs milliers de noms d'ici la fin de l'année.
Des étudiantes comme Tiffaine Dupuy-de-Méry, ça vient souvent. Est-ce que souvent on vous contacte pour des doctorats sur ce genre de choses, sur des recherches ou même des particuliers qui ont l'âme de l'histoire?
C'est entre 3 et 10 mails par semaine. Ah oui. Par semaine. Soit de descendants de familles de déportés qui ont un besoin d'infos et qui nous demandent un coup de main, auquel cas on les renseigne le mieux possible et s'il faut on fait le lien avec les autres institutions, soit des chercheurs, soit des jeunes historiens, par exemple un jeune homme là qui faisait son mémoire sur les hommes d'église et la foi catholique dans les camps nazis, et pas plus tard qu'il y a une semaine, et qui est passé au mémorial, à qui on a donné un certain nombre de pistes de recherche. Donc oui, et j'ajouterais que même pour le monde du cinéma et des documentaires, on est un lieu de tournage, et on a entre... Là, cette année, ça a été vraiment très, très intéressant. On a eu... je dirais entre 7 et 8 tournages depuis le début de l'année 2017.
Du coup, des films ou des documentaires?
Des documentaires essentiellement, des documentaires.
Il n'y a pas encore eu un film tourné sur ce camp-là, précisément?
Ben non.
Pour le moment, non.
Non, et là, ça reste à faire. Mais effectivement, les docus sont passionnants. Là, la dernière fois, c'était une dame russe qui venait de Moscou, qui venait faire un documentaire sur Mère Marie, qui est une des grandes figures de Compiègne, qui était une femme extraordinaire, résistante, qui a sauvé de nombreux juifs sur Paris, et qui se retrouve internée à Compiègne, qui est une religieuse orthodoxe, qui est une espèce de grande figure en Russie, qui est aussi connue que Napoléon chez nous, enfin vraiment. Et donc elles ont fait, ces deux femmes... Une visite d'une journée à Royallieu. Elles ont pris énormément d'images, capté beaucoup de choses, et ce sera diffusé, je pense, très largement en Russie.
Ça, vous arrivez à négocier des participations financières ou c'est totalement mis à disposition pour l'image en fait, du musée?
C'est sur accord du maire. Il faut que le maire donne son autorisation, bien entendu, de diffusion. Mais derrière, pour nous, c'est un gain énorme en termes de
visibilité.
Visibilité. Donc, et puis, ça reste un lieu de mémoire. Et on peut pas faire. Enfin, là, pour le coup, on est plus sur de la morale qu'autre chose. Mais à mon sens, c'est difficile de faire de l'argent sur là-dessus.
Non, mais il faut quand même préserver. Donc, l'argent ne servira pas à acheter un bateau ou une maison. Elle sert à faire avancer aussi le musée et pouvoir avoir des modifications. Quoi.
Pour être honnête avec vous, c'est dans les réflexions. On est en train d'y réfléchir, parce que c'est vrai que étant de plus en plus sollicité, ça pourrait en effet, comme vous dites, être un moyen. Donc on y réfléchit.
Quand on est directrice, cette sortie des Godko qui arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, c'est quoi? C'est un moment merveilleux, on est content, ou plutôt on se dit oh là là, ça va donner du boulot en plus, il faut qu'on change totalement nos plans. C'est quoi dans la vie d'une directrice ce genre de découverte?
C'est très excitant parce qu'en fait, c'est motivant. On se dit que ce sont des trésors du patrimoine et que si nous, on ne fait rien, Clairement, si je m'empare pas d'un sujet comme ça, ça passe complètement aux oubliettes et la vente se fait et ils partent et puis voilà. Donc là, si vous voulez, je sens tout le poids aussi de ma responsabilité vis-à-vis de ça, c'est de se dire, bon, là, bouge-toi, il faut y aller, là, hein, et t'as un mois. Parce que j'ai su ça fin octobre, pour le 4 décembre, la vente. Donc là, en plus, en termes de timing, on est très très juste. Donc là, je me suis mobilisée, j'ai mobilisé mes équipes aussi, on est tous sur le coup.
Vous avez des services civiques, du coup, au musée ? Vous avez des stagiaires qui viennent ?
Des stagiaires, oui, assez régulièrement. Oui, en BTS Tourisme, en licence. Là, par exemple, on va faire venir une stagiaire durant 6 mois, un stage rémunéré, pour faire le bilan de l'inventaire des collections et qu'on ait une connaissance très, très complète de nos fonds avant de commencer le nouveau musée.
Ouais, là, c'est un long stage. Là. 6 mois, c'est quand même un stage.
Ouais,
Des stagiaires de troisième, vous les prenez ?
Difficile. C'est, en fait, si j'avais une équipe de 10-15 personnes, j'aurais aucun mal parce que je considère que j'ai été stagiaire. Donc je sais ce que c'est qu'on nous colle derrière un bureau sans rien avoir dans les mains et s'ennuyer. Et je considère absolument pas ça, les stages comme étant productifs. Donc moi qui dis accueil d'un stagiaire, dit ok, je sais ce que je lui donne et il fait pas rien chez moi. Et c'est vrai que vu la situation actuelle qui est d'une toute petite équipe. J'ai peur que les jeunes ne soient pas forcément accueillis comme ils devraient l'être.
Mmh, dans les meilleures conditions. Ouais.
Donc, je suis toujours partie là-dessus. Je préfère faire de la qualité qu'autre chose. Donc voilà, quand j'accorde un stage, en revanche, c'est parce que je sais que je vais pouvoir m'en occuper de suivre.
Il y a une conférence organisée par Canopée Conférences le mercredi 22 novembre sur Jean Zé. Ça se prononce comme ça ?
Jean Zé, oui.
Ouais. Le ministre assassiné. On parle un peu de cette conférence ?
Bien sûr, oui.
C'est quoi le pitch de cette conférence ?
Le pitch. Jean Zé, c'est un personnage extrêmement important de la 3e République, il me semble, si je ne me trompe pas, mon 4e. Bon, je vous avoue que c'est précisément la raison pour laquelle j'invite des historiens, c'est que je ne suis pas historienne.
36 à 39, il a été ministre.
Oui, exactement. De Léon Blum sous le Front Populaire. Et c'est lui qui va créer, pour info, le Festival de Cannes. Voilà, c'est le créateur du Festival de Cannes, Jean Zay, entre autres. Enfin voilà, il est à l'origine de beaucoup de choses, mais la démocratisation de la culture, c'est avant Malraux, il a été un des fers de lance de cela, et l'éducation aussi, c'était quelque chose de très important.
Jeune élu, il avait 28 ans quand il a été élu.
C'est ça, exactement. Et arrêté par Vichy assez tôt, je crois, en 41. Et il va, le pauvre, croupir dans les prisons pendant 3 ans, dans les prisons de Vichy, et en être extrait à l'été 44, au moment du débarquement et de cette libération de la France qui se fait dans la douleur, véritablement dans la douleur, et où il y a des drames absolus comme Oradour et comme d'autres, lui, en fait, va être extrait de sa prison et va être lâchement assassiné par la milice dans une forêt. Voilà. Et donc, on va retrouver son corps plusieurs jours après. Et Jean Zay a été panthéonisé. Jean Zay fait partie des 4 personnes qui ont été panthéonisées en 2015, absolument, ouais. Et dont les cendres ont été ramenées au Panthéon. Donc c'est une figure très importante de la République. C'est un républicain acharné, convaincu, et c'est un modèle. Donc voilà. Alors les intervenants de cette conférence sont Pascal Horry, qui est professeur à l'Université de Paris, qui est excessivement connu, qui est sur tous les plateaux télé quasiment, aussi sur les problématiques actuelles de terrorisme et de Daesh. Il est très souvent interviewé sur les plateaux télé sur ces sujets-là. Et il a une analyse très fine et intelligente, ça, je trouve. Par ailleurs, effectivement, spécialiste de Jean Zay en France, tout simplement. Et il sera accompagné d'Hélène Moucharzet, qui est la fille de Jean Zay. Que je connais très bien parce qu'on est souvent en réunion ensemble à Paris, et Hélène Moucharzet est également, pour info, présidente du CERCIL, c'est-à-dire le lieu de mémoire des enfants du Veldiv.
Ça s'appelle le Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement.
Exactement, du Loiret, voilà, c'est ça, qui est juste à côté du camp de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, qui étaient les camps d'internement des enfants du Veldiv, qui ont ensuite été déportés et exterminés à Auschwitz. Donc c'est une femme qui a ce double titre, je dirais, qui a toute la légitimité pour intervenir.
Ouais, voilà. Qui est fille d'eux, mais également qui s'occupe encore aujourd'hui
du porte-parole de la mémoire de la Shoah.
C'est organisé en partenariat avec Réseau Canopée. Canopée, c'est la formation des professeurs.
Ouais.
Du coup, c'est à destination des professeurs ou c'est à destination du grand public ?
Les deux. Les deux. C'est avant tout Canopée qui est à l'origine. Donc, c'est vrai que les enseignants sont prioritaires pour cette conférence. Pensez bien à vous inscrire. L'inscription est obligatoire parce que les places sont limitées. On a 150 places dans la salle. Donc, l'inscription est obligatoire. Vous envoyez un petit mail à memorial@compiagne.fr, sans accent, minuscule. Et à ce moment-là, on prendra en compte vos inscriptions. Faites attention, c'est mercredi prochain.
Mercredi 22, de 14h à 17h, c'est vrai que c'est l'après-midi également, donc il faut pouvoir gérer ça. C'est plus facile pour les profs de venir sur leur temps de cours. Les prochaines conférences, il y en a d'autres qui vont être prévues ensuite après cette conférence sur Jean-José ou c'est,
Alors, les prochaines conférences, c'est pour les 10 ans du mémorial. C'est fin février, le 23, 24 et 25 février 2018, pour cet anniversaire important. Et donc qui portera sur la résistance et la déportation.
Voilà. On rappelle les tarifs des musées, du musée.
Le mémorial en fait est gratuit pour les moins de 26 ans, très important, pour tous les moins de 26 ans. Et au-delà, on est à 5 euros l'entrée.
Voilà. Il y a le dimanche, premier dimanche du mois, c'est gratuit également ?
Non, ça, en fait, ça c'est la politique des
sur musées nationaux.
France, voilà, et ce qui n'est pas le cas de Royallieu. Donc, pour le coup, on n'a pas cette tarification-là. Mais 5 euros pour... Alors, je prêche pour ma paroisse, évidemment, je suis assez peu objective, mais pour la qualité de ce qu'on présente, vraiment, c'est assez peu, je trouve. Voilà.
Et n'oubliez pas, si vous voulez participer donc, à cet appel aux dons pour retrouver les œuvres de Godko à Compiègne, eh bien, c'est sur le site ulule.com/godko-compiègne. On mettra toutes les infos sur le Facebook de la radio si vous l'avez loupé. Les informations sinon du mémorial, vous pouvez les retrouver sur le site internet. Vous rappelez le site internet ?
Oui, bien sûr, www.memorial-compiègne.fr.
Et on vous donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios.
Je vous en prie, c'était un plaisir.
On vous laisse le mot de la fin. Vous voulez... Ça serait quoi le mot de la fin ?
Le mot de la fin, je dirais qu'on ne construit pas son avenir si on ne connaît pas son passé.
Très bien, merci beaucoup et bon après-midi. Merci Anne Bonaby.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.